Et alors, cette réponse, il la donne sous la pression de son, aussi de sa propre vie, de son propre historique, puisque il a été enfant en contact avec Staline.
Bien sûr, oui.
Et il raconte, vous racontez, la mort de Staline. Donc il y a ce personnage qui est le génie du mal, en quelque sorte.
Absolument.
Le loup aux yeux jaunes.
Exactement. Mais dans le livre, il y a un pôle et un contre-pôle. Le pôle, c'est évidemment la figure messianique, et elle est incarnée dans le livre à la fois par Evan Fry et par le Rabbi Nachman, et en même temps, en filigrane, par le Christ. C'est les trois grandes figures messianiques, et elles en parlent l'une à l'autre. Et puis, il y a un contre-pôle. Et ce contre-pôle, c'est l'Antéchrist. Et cet Antéchrist, dans le livre, il a plusieurs formes. Il y a évidemment Staline, il y a de manière plus
alors, il est... Voilà, mais c'est un livre très construit, il faut que les auditeurs le comprennent.
Et Staline apparaît sous plusieurs aspects, mais il est aussi en rapport avec Hitler, curieusement. C'est-à-dire qu'on découvre que vers la fin de sa vie, Staline a, ce qui est vrai sur le plan historique, avait comme projet de se retourner contre les Juifs. Et il avait même comme projet de
c'est le complot déporter. Des blouses blanches, non ?
C'est le complot des blouses blanches, et dans ce complot, il y avait l'intention de déporter la communauté juive vers la Sibérie. Et c'était quelque chose de très efficace. Enfin, ça commençait déjà, ça avait déjà eu lieu, mais on n'en était qu'au début. Et il se trouve que Staline est mort le 5 mars 1953. Il est mort, et c'est la réalité des choses, il est mort le jour de Pourim. C'est-à-dire, le jour de Pourim, c'est un...
Alors, très Pourim, il faut expliquer aux auditeurs.
Le jour de Pourim, c'est en fait l'équivalent pour la tradition juive de notre carnaval, mais c'est en même temps une fête liée à un épisode très important de la Bible.
Et qui n'est pas du carnaval.
Et non, mais qui
n'est pas très joyeux.
Si, parce qu'il y a un retournement, en fait. Il se trouve que dans la tradition juive, le dévoilement du Messie est indissociable d'une possibilité d'extermination du peuple élu. Et c'est ce que montre le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, il y a un homme qui s'appelle Aman, qui est le premier ministre du grand roi, qui lui s'appelle Ahasuérus, ou Ahasvéroch en hébreu, et ce Aman est en fait un Amalécite. Amalek, c'est le contre-peuple élu. C'est le peuple qui vise, c'est un peuple mystique en fait, c'est un peuple contre-mystique qui vise à conduire les 70 nations, qui en principe devraient être ouvertes au salut par Israël, et qui vise à les conduire vers la perdition. Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le destin d'Israël, il y a un représentant d'Amalek en face, qui intervient. Et donc là, dans le livre d'Esther, le représentant d'Amalek, c'est Aman. Et Aman extorque au roi un décret d'extermination du peuple juif. Ce que Aman... Alors, il choisit pour éliminer le peuple juif un jour précis, qui est le 14 du mois de Hadar, parce qu'il pense que ce jour-là, les protections d'Israël sont faibles. Parce que le 7 du mois de Hadar, c'est la mort de Moïse. Donc il suppose que la mort de Moïse correspond à un moment du temps où les protections magiques d'Israël sont particulièrement affaiblies. Et donc il défalque les jours de deuil, et il choisit le 14, et il pense que là, ça va être le jour du coup de gomme, le jour où on pourra en finir à jamais avec le peuple élu, donc avec cette possibilité du salut. Ce qu'il ignore, c'est que Moïse, selon la tradition juive, est mort le jour de son anniversaire. Et donc, en fait, c'est un jour où les protections d'Israël sont très fortes. Et donc, il y a un retournement. C'est ce que raconte le livre d'Esther. Il y a un retournement, et ce retournement prend la forme, justement, de la reine. Il se trouve que personne ne le sait, mais la reine, qui en fait s'appelle pas Esther, elle a un autre nom dans la Bible, la reine est juive. Et Esther, ça veut dire la cachée. Et d'ailleurs, Megillat Esther, le rouleau d'Esther, ça veut dire le dévoilement du cachet. Et donc la reine, en fait, au dernier moment, va tout renverser. Donc au moment où on pense que le chef des Juifs, Mardoché, va être suspendu au bois, eh ben, il y a un retournement, et celui qui est suspendu, c'est Aman lui-même. Et dans la foulée, c'est 10 fils, parce qu'il a 10 fils. Et d'ailleurs, il y a un épisode très mystérieux. Quand les 10 condamnés de Nuremberg sont pendus, en fait, ils auraient été 12 au départ, mais il y a un contumace et un qui se suicide. Donc à l'arrivée, ils sont bien 10. Et l'un des plus antisémites, Julius Streicher, a cette formule à peu près saisissante. Au moment même où il est pendu, il hurle « Purim Fest 1946 ». C'est-à-dire qu'il identifie...
Ça, c'est très étonnant.
Ah oui, mais c'est tout à fait historique. Et de même qu'il est parfaitement historique que les droits d'auteur de Mein Kampf sont versés sur le compte d'un individu qui s'appelle Max Amann. Et ça, c'est
Amann, le nom donc de...
Le nom de l'exterminateur...
De l'antisémite de service, voilà. Dans le livre d'Esther.
Exactement. Le nom du chef d'Amalek. C'est-à-dire que les nazis, sur le plan mystique, s'identifient à Amalek. Ça, c'est évident. Alors, évidemment, c'est pas le cas de tous les nazis, mais le noyau dirigeant, le noyau le plus ésotérique, c'est cette idée qu'ils avaient en tête. Et donc, ce que je me dis dans le livre, c'est que Staline est sans, qui lui avait d'abord la haine du Christ, il est aimanté par cette logique amalécite. Et donc j'imagine que vers la fin de sa vie, dans cette espèce de délire qui tout à coup se met en place, c'est précisément cette dimension amalécite qui le pousse à avoir à son tour, au moment même où il va s'éteindre, à avoir à son tour le projet d'anéantir Israël, de reprendre en quelque sorte, lui, le dirigeant russe, de reprendre le projet du dirigeant allemand. Et il y a ce retournement, le jour de Pourim.
Alors dans les puissances négatives, puisque on est aux puissances négatives, oui, de votre ouvrage, donc Staline est évidemment la puissance négative qui est, absolument, grosse comme une maison qu'on peut pas rater. Mais il y a aussi un personnage qui est à hauteur d'homme apparemment, qui dialogue avec Evan Fry. À propos d'Evan Fry, je lis les messages d'auditeurs, donc je me permets juste une parenthèse. Est-ce que le nom de Fry est une allusion à Junius Fry, juif de Bohème, gagné aux idées révolutionnaires et guillotiné en 1794?
Alors, j'y ai pensé, évidemment. Junius Fry, c'est un personnage qui avait plusieurs noms. Il s'appelle, son vrai nom, c'est Moshe Dobrushka. Et il s'appelait également le baron Franz von Schönfeld. Et c'était le neveu de Jacob Frank. Je ne sais pas si vous voyez qui est Jacob Frank. C'est un grand chef sabbatéen. C'est une hérésie juive, oui, qui vise à faire advenir le salut par le mal. Et qui a pénétré, justement par l'entremise de Junius Fry, qui a pénétré les arrière-loges maçonniques. Donc c'est un personnage très sombre, très très sombre. Ils se sont convertis en apparence. Alors ils attachaient beaucoup d'importance aussi à Pourim. D'ailleurs c'est assez drôle qu'on en parle, parce que le Rabbi Nachman, qui évidemment détestait ces gens-là, qui les considérait comme des suppôts de la perdition, il avait entrepris de faire le tikkun, comme on dit dans la tradition juive, c'est-à-dire de réparer, parce que pour eux, quand une âme tombe très très bas, il faut la relever en quelque sorte. Et de son temps, Franck était mort depuis longtemps, mais il avait essayé de faire le tikkun de Franck. Et donc beaucoup des gestes qu'il accomplit, c'est pour conjurer les nouages sataniques des sabbatéens franquistes. Il y a un rapport indirect, c'est-à-dire que mon personnage n'est pas du tout en rapport avec Junius Fry, mais j'ai aimé le nom Fry, libre. Alors, il avait pris ce nom, lui. Junius, c'est le nom de Brutus, c'est la gens de Brutus, pour dire qu'il était devenu révolutionnaire. Et Fry, ça voulait dire...
Ah, voilà. Libre.
Voilà. C'était donc...
C'est un Evan Fry qui n'aurait pas évolué, qui en serait resté à la dimension dionysienne des premiers moments,
voilà,
de sa vie.
Alors lui, il était même pire que dionysiaque. Il était vraiment satanique. C'était vraiment... c'était une logique... c'était une inversion. C'est une spiritualité inverse. Et alors, le paradoxe, c'est que c'est un personnage ambigu. Il était très proche des empereurs d'Autriche. et en même temps, vers la fin, il semblerait être devenu un personnage jacobin. Mais on ne sait pas en réalité pour qui vraiment il travaillait. D'ailleurs, il a été guillotiné par Robespierre, et on se demande à l'arrivée s'il n'était pas en fait un agent de Vienne. Donc s'il n'avait pas comme objectif en réalité d'aider Marie-Antoinette à...
Ah, c'est vraiment un personnage complexe.
Ah, c'est un personnage très complexe.
Julius Frey.
Ah oui, c'est un personnage... C'est-à-dire qu'il a été d'abord dans sa vie... Il était juif. Ensuite, il est devenu un baron catholique très proche de Joseph II, le baron Franz Thomas von Schoenfeld. Et ensuite, il est devenu un agent jacobin dont on peut soupçonner qu'il est en fait, en réalité, toujours au service de la cour d'Autriche.
Un agent double, oui.
Et par ailleurs, il était un des responsables clés de la maçonnerie en son temps. Hein, il contrôlait les arrière-loges en Allemagne.
C'est passionnant.
Ah oui, c'est un personnage. Il est assez méconnu, je dois dire, mais à mon avis, beaucoup plus important qu'on ne le pense.
Et alors, c'est un sabbatéen au départ.
Lui, c'est un sabbatéen, bien sûr. C'est tout simplement le neveu de Franck. Et quand Franck meurt en 1791, il est même question qu'il remplace son oncle.
Rappelez-moi le prénom de Franck, oui.
Alors, Franck, son prénom, c'est Jacob.
Donc, Jacob Franck. Et alors, qui imagine une espèce de messianisme politique des Juifs, en fait.
Alors, il y a un aspect comme ça, il y a un aspect messianisme politique, il a même une armée, il veut organiser une armée, il a une cour, il se vit comme un roi, il est soutenu à la fois par la Russie, par l'Autriche, c'est un personnage extraordinairement puissant, c'est pas trop d'où il tire son argent, il vit dans des palais, il a toutes sortes de connexions. Et c'est un personnage qui en même temps veut faire advenir. Alors il se convertit au catholicisme. Officiellement il est catholique. En réalité il est totalement il est fallacieux. C'est-à-dire qu'en réalité il est à la fois contre la synagogue et contre l'Église.
Il est contre l'institution au fond.
D'une certaine manière, mais il est pour l'inversion, c'est-à-dire qu'il veut accomplir, vous savez, dans la tradition juive, à partir de la Bible, il y a 613 mitzvot à accomplir. Lui, il veut accomplir les 613 obligations, en quelque sorte.
Oui.
Il veut accomplir les 613 mitzvot à l'envers. Alors, vous voyez, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'inceste, l'interdiction... Bon, c'est tout ça à l'envers.
Donc, il veut que ce soit l'obligation de l'inceste, l'obligation du meurtre.
Exact. Donc voilà. on est dans une dimension proprement satanique. C'est une œuvre théurgique infernale. Et ça, c'est quelque chose de secret, mais qui a eu lieu, disons, à la fin du XVIIIe siècle.
Non, c'est passionnant. Alors il y a un autre auditeur qui nous parle. Bonsoir Monsieur l'Abbé, les communautés assidiques qui crient « We want Mashiach now », nous voulons le Messie maintenant, dans les rues de New York, sans parler des Haredim de Mea Sharim qui lancent des pierres sur les femmes insuffisamment couvertes, n'inspirent pas une admiration et une spiritualité sans bornes.
Cela dit, tous les bons sous sont... Il y a toujours des imbéciles partout, c'est évident, mais personne ne peut nier que les grandes tzadikim du XVIIIe siècle, c'était, ou même du XIXe, c'était des grandes figures spirituelles. Ils ont laissé des textes, c'est des figures de sainteté d'une certaine manière.
Il y a plusieurs destins du judaïsme dans l'histoire, c'est ça qui est passionnant.
Bien sûr, et d'ailleurs...
Donc il y a sa bataille, lui,
oui.
et Jacob Franck et Junius Frey. Bah,
oui, bien sûr. Oh, mais à l'époque, au XVIIIe siècle, il y a plusieurs courants. Il y a les Hassidim, il y a évidemment les Mitnagedim, c'est-à-dire les observants stricts, les gens qui refusent la Kabbale et qui sont dans l'observance stricte. Il y a les Maskilim, c'est-à-dire les Juifs des Lumières. Hein, et puis il y a les Sabbatéens. Donc ce sont des gens qui se haïssent les uns les autres. Et le propre des Sabbatéens, c'est qu'ils prennent tous les masques. C'est qu'ils peuvent être observants, ils peuvent être racides, ils peuvent être masquiles, et le cas échéant, ils peuvent même être catholiques. Par exemple, Shabbat Haïtzvi, lui, en 1666, il s'est converti à l'islam. Jacob Franck s'est converti à la fois au catholicisme et à l'orthodoxie, en 1759. Donc ce sont des personnages dont la vie est un carnaval. Et c'est lié à Pourim, d'ailleurs. Pourim, c'est une fête messianique dans le judaïsme. Donc c'est la fête du renversement, c'est la fête du masque. Et donc, ces gens-là pensent qu'ils vont faire advenir un événement, ils vont faire advenir une dimension messianique par l'inversion. Alors évidemment, Rabbi Nachman, il est complètement à rebours de ça. Hein, il les considère comme des impies, et même comme des gens qui ont une influence sur le destin juif. Donc, lui, en tant que figure de juste, il doit contrer cette influence. Il doit conjurer ces forces mauvaises.